Salutations à tous. Vous allez bien ce matin? Que la paix de Dieu soit avec vous, véritablement. C'est pour moi un honneur, c'est une joie, c'est un privilège que d'être avec vous ce matin. Vraiment, merci pour ce temps d'adoration. C'est une grâce de pouvoir louer Dieu. Je disais à mon épouse tout à l'heure, enfin nous sommes dans la maison de Dieu. Enfin, vous savez, il est dit dans Hébreux chapitre 11 que les héros de la foi, qui n'ont pas toujours eu une vie exemplaire, mais qui ont percé dans la foi, on les appelle des héros, pas parce que leur vie est parfaite, mais parce que du début à la fin, ils ont continué de croire. Et il est dit que ces personnes cherchaient une demeure et qui ne l'ont pas trouvée sur cette terre, et qui sont allés de lieu en lieu, errant ça et là, pour trouver une maison dans laquelle ils pourront louer Dieu. Ce que le roi David dira lui-même, « Je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour toi, ô Éternel. » Et je suis heureux dans toutes nos pérégrinations, comme on parlait hier avec Jean-Marie, d'avoir trouvé un lieu où Dieu est véritablement adoré. C'est pour moi un honneur véritablement d'être ici à cause de ce qu'est cette église. Et je profite, parce que je sais que vous êtes regardés, de le dire, ce qui rend cette chair, cet autel redoutable, ce n'est pas le nombre de followers, c'est les sacrifices qui ont établi cet autel. C'est une église qui a sacrifié. Si vous vous le dites, on dira que c'est faux. Si un étranger le dit, c'est la preuve que c'est vrai. Il y a beaucoup à voir sur cette estrade, il y a beaucoup à voir dans cette salle. Je vous remercie pour la part que vous prenez à l'évangile, qui est aussi la part que nous prenons. Je vous remercie pour la part que vous avez pris pour Jésus-Christ, parce que nous le servons comme vous. Et c'est un honneur d'être au milieu des frères et des sœurs ce matin. J'aimerais remercier vos pasteurs, votre équipe, qui nous a énormément bien reçus ces derniers jours. Avec Pierre, on a de beaux partages. Comme quoi un bout de viande peut rassembler des hommes. C'est un jeune adapté. Vous avez vu comment un bon repas peut rassembler des gens? C'est fou, hein? Une bonne prédication peut rassembler l'Église. La dernière fois que nous sommes venus, il y a un mois, Jean-Marie m'a lancé un défi. Votre patriarche, comme je l'appelle. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu viennes prêcher. Je dis, mais ça serait un honneur, merci. Il m'a dit, oula, dis-moi pas merci si vite. Il dit, parce que chez nous, il faut du pain complet. Et comme dirait un certain général, et je vous ai compris. Alors c'est un honneur pour moi. Vous savez, il est dit que les pharisiens se tenaient dans la chair c'est l'autel, c'est le pupitre, dans la chair de Moïse. Et je le dis en toute modestie, parce qu'on a l'habitude de voir d'autres visages, c'est un honneur pour moi de me tenir dans la chair de Jean-Marie André Lito. Parce que c'est un homme qui a percé pour l'Évangile. C'est une génération qui a sacrifié pour l'Évangile, que notre génération n'a pas encore compris, de marcher dans la trace des pères. Et vraiment, c'est un honneur. Et je veux vraiment le marquer. Il n'y a pas de faillotage en moi. Je ne suis pas ce genre de personne, je ne mange pas de ce pain-là. Mais je sais reconnaître ceux qui sont nos pères. J'ai dit un jour à Johanna, tout le monde aujourd'hui sait qui tu es, et tant mieux, c'est bon, parce que c'est une bonne personne. Moi, je peux le dire, je ne suis pas membre de cette assemblée, ils ne vont pas me payer pour cette annonce. Enfin, je crois pas. Mais vraiment, c'est des bonnes personnes. J'ai rencontré les équipes actuelles, c'est des bonnes personnes. Et j'ai dit à Johanna, tu sais, moi je fréquente beaucoup les anciens et les pères, ceux qui ont percé, ceux qui ont fait ce pourquoi on croit en l'Évangile en France. Tous les pères savent qui est Jean-Marie André Lito. Tous les vieux, tous les anciens, tous les grands savent qui est ton père, je te l'ai dit. Et je veux rendre hommage à ces pères. Honore ton père et ta mère, premier commandement suivi d'une promesse. L'Évangile en France a eu ses pères. Sachons les honorer. Merci encore une fois à chacun d'entre vous pour la part que vous avez prise jusqu'ici aussi. Parce que la Bible est claire, il y a une façon dont on peut recevoir des messagers. Vous savez, le mot ange, si mystérieux soit-il, veut dire messager. Il y a des messagers qui sont purs esprits, il y a des messagers qui viennent dans la chair. Et il est dit, ne négligez pas l'hospitalité, parce qu'au travers de cette action d'hospitalité, de savoir accueillir, certains ont reçu des anges, ont hébergé des anges, des messagers. Il y a deux façons de pouvoir percer avec le milieu des messagers. C'est l'hospitalité, mais c'est aussi le jeûne. Et il me semble qu'il y a une histoire que vous connaissez bien, vu que vous en sortez juste, que pendant 3 semaines, Daniel a jeûné, pas pour recevoir des frissons, pas pour recevoir juste des informations, mais pour qu'un message lui soit envoyé. Pour recevoir un message qui allait changer la face du monde, qui a changé la vie de Daniel, qui a changé la vie de son peuple, qui a changé la vie d'Israël et qui jusqu'à aujourd'hui, des millénaires après, continue de nous inspirer et de changer notre vie. Quand Daniel a jeûné 3 semaines, un ange est venu avec un message qui lui donnait une solution. Et vous savez pourquoi ce message est parvenu jusqu'à nous ? Parce que Daniel a suivi ce message. Il n'a pas fait que l'écouter, le recevoir, il l'a appliqué. Dans Jean chapitre 1, il est dit une chose merveilleuse, comme dans toute la Bible. Il est dit qu'au commencement était la parole. C'est magnifique, au commencement était la parole. Mais mes amis, nous ne sommes pas au commencement de l'histoire, nous sommes à la fin des temps. Qu'est-il dit à la fin ? Au commencement était la parole, mais à la fin sont les fils et les filles de Dieu. Au commencement est une information qui doit être reçue, qui doit nous éclairer et nous fournir la vie pour devenir. À ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au commencement est la parole, à la fin est l'incarnation. Nous demandons des messages, nous venons à l'Église, nous les premiers, pour recevoir un message de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce message ? Le titre de mon intervention ce matin, parce qu'il fallait donner un titre, 1 ou 2 versets, pour montrer qu'on est dans les clous, c'est « Laissons-nous transformer ». Laissons-nous transformer. Il y a le produit initial, mais souvent dans l'assiette, on nous présente un produit fini. Notre sœur qui est là-bas est en train de dessiner, elle fait des tableaux magnifiques, inspirés de Dieu. J'ai même vu dans ces tableaux une vision que j'ai eue il y a des années. Je lui ai dit, mais est-ce que je peux te l'acheter ? Voilà. C'est inspiré de Dieu. Mais vous savez ce qu'elle est en train de faire ? Elle a pris une toile blanche, j'imagine, et elle peaufine dessus. Tout de suite, ce n'est pas encore le produit fini. Ce qu'elle présentera là-bas, ça sera le produit fini. Qu'est-ce que nous allons présenter au monde ? Qu'est-ce que nous allons présenter à Dieu ? L'apôtre Paul dira à Timothée, et par là même le Saint-Esprit à nous-mêmes, « Prépare-toi, travaille, dispose-toi comme un ouvrier, pour être un ouvrier qui n'aura pas à rougir devant Dieu lorsqu'il va se présenter. Dispense avec droiture la parole de vérité. Un jour, mes amis, nous nous présenterons devant Dieu. » Un jour, ça ne sera pas simplement le dimanche matin à l'église, nous allons parvenir dans un endroit où Dieu ne sera plus qu'une idée, Dieu ne sera plus qu'un esprit, Dieu ne sera plus qu'un ressenti. Il sera devant nous et nous serons devant lui et nous aurons quelque chose à présenter. Pas simplement ce que nous aurons prêché, bien que nous qui sommes à la chair, nous allons devoir rendre compte de ça, mais ce que nous aurons incarné. Quand Jésus-Christ est dans les cieux, il est à l'étape de pensée. Il est la pensée de Dieu, il est dans le Père. Il est pensé par le Père, il vit dans le Père. C'est mystérieux tout ça. Mais un jour, Jésus-Christ va prendre un livre. C'est écrit, il y a des livres au paradis, dans le royaume de Dieu. Il va dérouler un rouleau. Il va commencer à lire que dans la pensée du Père, c'est pas simplement qu'il soit en haut, qu'il soit avec lui, qu'il soit bien en lui, mais qu'il y a un projet d'incarnation qui doit se manifester sur cette terre. Et d'une pensée et d'une parole est né un homme qui a incarné cette parole. Qui a tellement incarné cette parole que dira le Concile de Nicée qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, et c'est vrai. On ne savait plus comment distinguer. Jésus-Christ est véritablement homme, comme toi, comme moi, mais il est véritablement Dieu. Sommes-nous ainsi ? Parce que c'est là le projet. Être chrétien, c'est être rendu semblable à Christ. Par Christ, pour Christ, avec Christ. Si c'est par nous-mêmes, ça va être compliqué. Mais c'est ce que Dieu se propose de faire pour chacun d'entre nous. Quand il envoie sa parole, effectivement, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose, il y a plus que d'être guéri, il y a être changé, il y a être transformé. Il y a plus que juste être sauvé pour aller au paradis, il y a vivre comme Dieu sur cette terre. Pas comme un mégalo ou quelqu'un de désaxé prophétiquement qui finit par penser qu'il est l'ange Gabriel. Je vous parle de personnes qui se laissent incarner par Dieu, transformées par lui, changées de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit, qui a compris que ce qui est écrit pour se manifester en lui. C'est toute une quête que de lire ce livre. C'est toute une réalité que de s'exposer à l'Esprit. C'est ce que nous faisons à l'Église. Laissons-nous transformer. J'aimerais lire avec vous un premier passage qui se trouve dans le livre de la Genèse, premier livre de l'Ancien Testament, premier livre de Moïse, le livre des commencements, le livre de la Genèse, chapitre 41, du verset 53 au verset 57. C'est l'histoire de Joseph avant la famine. Alléluia, merci beaucoup d'afficher, c'est super. Nous lisons « Les 7 années d'abondance qu'il eut en Égypte passèrent ». Je veux juste m'arrêter, tu peux laisser, hein, je veux juste m'arrêter là-dessus. Vous avez vu, l'abondance ne dure qu'un temps. Parce que nous sommes dans le temps du passager et de l'éphémère, Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. La Bible dira, l'apôtre Jean écrira, et par là même encore une fois le Saint-Esprit nous enseigne, que ce monde passe, tout ce qui renferme, sa convoitise et même les choses qui sont bonnes. Même la bénédiction de Dieu sur cette terre, elle passe. La matérialité de la bénédiction passe. Demain, quelqu'un peut avoir la chic envie de me donner 1 million d'euros, merci, sois béni, mais t'inquiète pas qu'il va passer, je vais m'arranger pour ça. La bénédiction matérialisée passe. C'est pas que les mauvaises choses qui passent. L'abondance passe. Mais l'apôtre Jean dira, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi ? Parce que la bénédiction aura laissé en lui une nature plus qu'un objet. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte passèrent. Si on peut continuer, merci. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait annoncé. C'est beau. La parole, la prophétie, Joseph le juste, comme ils l'appellent les Juifs, Yosef HaTzadik. Waouh, c'est magnifique, ça sonne bien en plus, on dirait un personnage de manga. Ça sonne bien. Mais ce n'était pas juste pour dire, t'as vu comment j'ai prophétisé juste ? Il avait fait quelque chose de plus que de prophétiser. Il avait déposé une sagesse en Égypte. Il avait déposé une sagesse. La prophétie, c'est intéressant, c'est super, mais vous comprenez bien que je ne vais pas mépriser ça. Mais il y a plus que la prophétie. Il y a tout ce qu'elle permet d'incarner lorsqu'on prend la sagesse avec nous. La famine régna dans tous les pays, pas qu'en Égypte, hein, dans tous les pays. Mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Amen. On peut continuer. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, donc eux, ils ont eu faim un peu après les autres, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Magnifique passage. On répète, je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas compté, le mot famine. C'est la famine, c'est la famine, c'est la famine. Il est dit dans les prophètes, que viendrait un temps, et nous y sommes, où Dieu enverrait la famine sur ce monde, non pas de pain et d'eau, mais de sa parole. Avec la volonté d'entendre sa parole vraie. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de parole donnée. Il a dit que le vrai serait tellement rare, la vraie parole, la vraie consistance serait tellement rare sur cette chair qu'on aurait faim de retrouver cette parole qu'on a tant méprisée à cause de ce que j'appelle le spectacle évangélique. Vous savez, il y a un évangile, et j'aime le dire souvent, qui a détruit l'Église. Il y a un évangile qui a corrompu l'Église. On doit se détourner de cet évangile. Il y a aussi un autre évangile, un peu plus intéressant, qui a maintenu l'Église dans sa part de vérité. C'est bien. On ne peut plus se contenter non plus de cet évangile. On doit retourner au premier évangile. Il y a un évangile qui a bâti l'Église. Il y a un évangile qui a bâti, un évangile qui a maintenu, un évangile qui a détruit. L'évangile qui a bâti est rare. À nous d'aller le chercher. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Pourquoi Pharaon, on va dire, allez voir Joseph ? Parce que lui-même, avant de dire au peuple d'aller le voir et de faire tout ce qu'il vous dira, lui-même était allé voir Joseph et avait fait tout ce que Joseph avait dit. Il avait vu la véracité des paroles de Joseph, la sagesse des paroles de Joseph. Et il avait appliqué cette parole, et il avait vu les bénéfices d'appliquer cette parole. Ce qui est des fois particulier dans nos milieux, on vient à l'église, où on va voir le marabout évangélique, communément appelé homme de vision, et on nous pose des questions. On répond aux gens, on leur donne des directions, et les choses n'arrivent pas. Oula, attention, c'est un faux prophète. Mon ami, développe ta vie, tu n'as rien appliqué de ce qu'on t'a dit. L'évangile est conditionnel. Même le salut est conditionnel. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie, l'avoir dans son cœur, le proclamer par sa bouche. Il y a une condition au salut, croire au Christ, croire en Jésus. Il y a une condition pour toutes les promesses de Dieu, suivre le plan de Dieu. Et ce plan nous est révélé par l'Évangile. Lorsque l'Égypte vivait la famine, les premières années, ils ont eu du pain alors que les autres n'en avaient pas. Parce qu'ils étaient au bénéfice de ce qui avait déjà été la prospérité, la bénédiction de Dieu dans leur pays. Mais même cette prospérité s'est arrêtée, même ce pain s'est terminé. Et ils ont dû aller vers Joseph, qui a ouvert des centres parce qu'il avait pensé. Et ils ont dû commencer à payer le prix pour pouvoir continuer à se nourrir. Et de l'Égypte, qui était une terre d'abondance, de surconsommation, la Babylone spirituelle, comme certains l'appellent, qui est une image de ce monde, qui revient même dans l'Apocalypse, pour la mort des deux témoins, Sodome et Égypte, d'une façon imagée. C'est le monde d'aujourd'hui, on pourrait même dire le monde occidental, mais qui s'est tellement répandu partout qu'au fin fond du désert, on trouve des boissons gazeuses à un certain goût. Ce monde de surconsommation, l'Égypte fonctionnait comme ça. Mais quand Joseph est arrivé avec la sagesse et qu'ils ont écouté le message et le messager, alors ils ont commencé à fonctionner différemment. Et Joseph a fait de l'Égypte, qui était une terre d'hyperconsommation, une terre de provision. Il ne les a pas privés de consommer, d'avoir du bon temps. Mais il leur a dit, écoutez, ayez du bon temps avec mesure, ayez du bon temps avec sagesse. Mes amis, quand la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aurait cette famine de la parole de Dieu, même à l'Église, on doit venir avec mesure. On doit s'approcher, prendre ce qu'on a à prendre ce matin, être touché ce matin, mais avoir une réserve. Savoir que ce que je reçois aujourd'hui va m'être utile demain. Pour moi, mais pas que pour moi. Parce que l'Évangile n'est pas égocentré. Pour moi, mais aussi pour d'autres. Fut un temps où ils ont ouvert les centres d'approvisionnement. Et quand ils ont ouvert les centres d'approvisionnement, ils ont trouvé de l'approvisionnement. Il y a un passage dans Jérémie chapitre 14 où il est dit quelque chose de terrifiant pour notre génération. Il est dit que les grands envoient les petits aux citernes pour trouver de l'eau et les petits ne trouvent rien, ils reviennent à vide. Par moments, c'est ce qui se passe. Les grands, les ministres, les personnes censées nous donner la direction nous envoient quelque part. Allez là-bas, Dieu y est. Il n'y a rien. C'est horrible. Je bénis encore Dieu d'être entré dans une citerne où il y a de l'eau, d'être rentré dans un centre où il y a du grain, d'être rentré dans votre assemblée. Mais maintenant, la question que je pose et le défi que j'aimerais vous laisser, est-ce que nous-mêmes, lorsqu'on ouvre nos cœurs, est-ce que nous-mêmes, lorsqu'on ouvre ce que Dieu a déposé en nous, il y a du grain pour dehors? Que la maison de Pharaon ait à manger pour le peuple de l'Égypte, c'est bien, mais est-ce que l'Égypte a à manger pour le monde? Joseph avait tout prévu. Le plan de Dieu au travers de vous qui êtes ici et d'autres qui nous écoutent, mais je m'adresse à vous qui êtes ici. Vous n'êtes pas un centre publicitaire pour ministère. Je m'adresse à vous qui êtes ici. Le plan de Dieu, c'est de faire de vous des citernes et un centre d'approvisionnement pour d'autres. Les 7 années d'abondance passèrent, nous sommes dans cette 7e année. L'abondance va passer. Est-ce que vous allez demeurer une source de bénédiction? Et pour ça, il faut vous laisser changer. Jean chapitre 1, comme je le disais tout à l'heure, dira que la parole est reçue, elle nous illumine, elle nous donne la vie. Et ensuite, elle fait de nous des fils. C'est mignon tout doux, hein, c'est joli, c'est bien dit, c'est poétique. Et si on est un peu égocentré, on s'arrête là. Je suis devenu fils et fille du roi. Je suis une merveille, qu'importe ce que tu vois, comme dira le chant. Et des fois, il vaut mieux pas voir. Et voilà, on se retrouve dans tout un tas de choses où ça y est, j'ai atteint le summum, je suis devenu. Ah. Jésus-Christ, il était le Fils unique de Dieu. Il l'a prouvé. Il ne l'a pas que dit. Comment est-ce qu'il l'a prouvé? Il s'est donné. Dieu donne les fils et les filles pour le monde. La Bible dira, le Seigneur Jésus-Christ dira lui-même dans les évangiles qu'il y a un champ qui est cette terre dans lequel Dieu sème et le diable sème. Il dit la bonne semence, à ce niveau-là, ce n'est plus que la parole. La bonne semence, c'est les fils et les filles du royaume. Et la mauvaise semence pour le diable, c'est plus que les traits enflammés des mauvaises paroles, c'est les fils et les filles du malin. Tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Où est-ce que tu as été semé et quelle en est la récolte? On doit se préparer à ça. Dieu fait de nous des grains. Dieu nous transforme pour nous-mêmes, pour nous faire du bien, pour nous sauver, et c'est vrai. Mais il y a une vue derrière, parce qu'il y a un besoin sur cette terre. Le fleuve et le courant de l'Évangile ne s'arrêtent pas à mon propre cœur. Il doit toucher mon cœur, changer mon cœur et se déverser dans le cœur d'autres, et ainsi de suite. Vous êtes au courant de ces choses. Alléluia. Comme nous sommes dans cette dernière année, et puis en 2026, il me semble, j'aimerais vous partager 4 chapitres 6. Il y a 4 évangiles, mais je ne vais pas vous lire les 6 chapitres. Matthieu 6, Marc 6, Luc 6, Jean 6. Pas mal. Il y a une telle sagesse dans la Bible, je fais une petite digression. Aimez lire les Écritures, aimez les étudier, parce qu'il y a une sagesse dans tout. Dieu structure les choses, il nous fait passer des messages d'une telle façon. C'est magnifique d'ouvrir ce livre avec le Saint-Esprit, parce qu'on est toujours surpris. Toujours surpris. Et dans Matthieu chapitre 6, vous connaissez en partie, c'est la prière du Notre Père. Premier évangile, Matthieu. C'est organisé comme ça, c'est sûrement pas le premier écrit, mais on l'a placé là. Qu'est-ce qu'il dit dans le Notre Père ? Donne-nous notre pain. C'est pour nous. Donne-nous notre pain, du pain bien fait, complet et coupé. Comme disait Jean Calvin, on l'a appris hier, qu'il faut couper le pain pour pouvoir le distribuer. Donne-nous notre pain. Première étape de l'évangile. Je viens pour moi, j'ai un besoin pour moi, je dois être nourri pour moi. Jusque-là, il n'y a rien de mal. Au contraire, c'est même sage. Tu vas pas sauver le monde si t'as pas encore sauvé ton âme. Donne-nous notre pain. Il est préfet, c'est superbe, on se nourrit. Dans Marc chapitre 6, c'est la multiplication des pains. Et là, c'est plus donne-nous notre pain que vive. Jésus, il apprend la prière de notre Père à ses disciples, donc entre autres aux 12 apôtres. Mais à ce moment-là, maintenant, il ne dit plus à ses disciples, voici votre pain, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Je multiplie le pain moi-même, je suis Jésus, je vous donne quelque chose de préfet, mais c'est maintenant à vous d'aller le donner aux autres et de commencer à voir comment ça se multiplie lorsque vous n'êtes plus simplement dans la réception, mais aussi dans le don. Vous me suivez jusqu'ici ? Premièrement, donne-nous. Deuxièmement, donnez-leur vous-même. Troisièmement, Luc chapitre 6. Dans Luc chapitre 6, on va voir Jésus, parmi la foule des disciples, se choisir 12 apôtres pour être d'abord avec lui, pour ensuite les envoyer. Apôtre veut dire envoyer. Mais la première fonction, c'est déjà soyez avec moi, soyez proche de moi, voyez comment je fonctionne, voyez ce que je suis devenu. Et on va voir dans ce chapitre, Luc chapitre 6, encore une histoire de pain, à croire qu'ils sont comme nous, Pierre. Ils mangent tout le temps, ces apôtres. Pas possible. Comme quoi, merci Seigneur. Et ils vont se retrouver dans un champ, ils vont faire quelque chose d'étonnant qui passe à la trappe, si on le lit que comme ça. Ils vont prendre du grain, la matière première, ils vont le froisser dans leurs mains, faire un peu de la farine ou quelque chose de consommable, et ils vont le manger. Et là, grand débat avec les pharisiens, parce que c'est le jour du sabbat, et puis vient venir tout un débat autour du pain, à croire que le royaume de Dieu est devenu une boulangerie. On va parler de David avec le pain dans la tente de la rencontre, on va parler de plein de choses avec le pain. Voilà. Quelle est la meilleure recette, complet, demi-écrémé ou je sais pas. Mais tu dis, mais pourquoi ? Est-ce que la Bible est un livre de cuisine ? C'est quoi le message derrière ça ? Franchement, vous avez vu, on ne dit pas tout ce qu'a fait Jésus, alors que ça nous intéresse beaucoup. Il y a même des grands débats pour savoir s'il y a 8 ans, il n'a pas fait un miracle, vous comprenez ? Pourquoi on nous parle que les apôtres, ils prennent du grain, ils le frottent ? Mais ce n'est pas grave. Enfin, mais si, c'est important. Parce que maintenant, on nous parle d'une autre dimension. Premièrement, donne-nous notre pain. Il est préfet, je le mange. Deuxièmement, tu as vu, je t'apprends une première, redonne. Troisièmement, commence toi-même à faire ton pain. Commence toi-même à te nourrir à partir de la matière première. Il entraîne les enseignés comme un bon père qui dirait, allez, bah maintenant, tu as vu, je t'ai nourri. Allez, viens avec moi maintenant, apporte à manger à ta sœur. Maintenant, viens, je vais t'apprendre à cuisiner. Ça, c'est Luc chapitre 6. Cueillez vous-même et transformez vous-même. Prenez ce que vous avez reçu et transformez-le pour vous nourrir. Allez plus loin que des messages préfets. Commencez à étudier par vous-même. Et la quatrième chose qui est la plus intéressante, et c'est sur ça que j'aimerais dire laissons-nous transformer. Je ne vais pas trop vite, ça va ? Superbe. Vous êtes tellement poli que j'imagine que vous ne m'arrêterez pas. Je vous remercie pour ça. Le quatrième qui est le plus important, c'est devenez le pain. Dans Jean chapitre 6, verset 48, il me semble, que je vous ai donné. Jean chapitre 6, c'est simple, c'est court. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et là, tu vas me dire, mais Fabien, c'est Jésus. On ne va pas faire une sainte scène à partir de toi. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas mon propos. Mais Jésus nous montre, c'est quoi le Fils de Dieu ? C'est quoi être fils et fille ? Deviens toi-même le pain pour les autres. Ce n'est pas la même chose si je te donne un message que si je deviens un message. Nous sommes un message pour ce monde. Toutes ces étapes d'avant sont valables et sont vraies. Jésus-Christ lui-même l'a fait. Il est la parole au commencement, il devient un être humain. Il dispense cette parole en prêchant. Il donne vie par ses mots. Il explique des choses. Il les explique. Donc nous-mêmes, on doit le faire. Avis aux prédicateurs, ne devenez pas fous sur ce message et quittez pas la chair. Il faut prêcher. Ce n'est pas le problème de ça. Mais il faut plus que ça maintenant. Jésus, il montre que dans sa vie, à la fin de ma vie, je suis devenu moi-même ce pain. Je me suis donné moi-même. J'ai incarné ce message pleinement. J'y ai tellement cru que je le suis devenu. Je le suis tellement devenu que je me suis donné. Et le monde vit grâce à ça depuis des millénaires. Par là même, le Seigneur nous montre, encore Jean chapitre 1, que cette parole reçue nous donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir, la capacité, le droit, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. C'est à nous, il ne dit pas « elle va vous changer », elle dit non, elle vous donne vous-même le pouvoir de changer à partir de cette parole. Vous-même de vous exposer, d'être transformé. Comment ? Pour qu'à la fin vous deveniez vous-même ce pain. Ça sera plus simplement « donnez-leur vous-même à manger ». Ça c'est la classe sixième. C'est maintenant « donnez-vous vous-même à manger ». Offrez-vous vous-même. Le Seigneur Jésus a dit « personne ne me prend ma vie ». Il n'y a pas de coup de pression à l'église pour faire le ménage. Je me donne moi-même. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as fait un corps, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. C'est ce niveau-là qui a fait que des hommes ont dit « Fabien, c'est Jésus ». Stop. On va parler des apôtres alors. Pas que des douze, même de Paul qui était en dehors des douze. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous, diront les païens en voyant les apôtres. Ils bouleversaient le monde, pourquoi ? Parce que bien qu'étant dans le monde, ils n'étaient plus comme ce monde. Ils n'étaient plus tournés vers eux, vers la bénédiction pour eux. Ils étaient eux-mêmes devenus une bénédiction pour d'autres. Quand Joseph va devant Pharaon, vous savez pourquoi Pharaon l'écoute ? Parce qu'il a de la sagesse, pas que. Pas que. Ce qui va toucher Pharaon, l'attitude de Joseph, il cherche l'intérêt de l'Égypte, il cherche l'intérêt de Pharaon. Il ne sait pas qu'on va le mettre premier ministre ou second après Pharaon. Il ne le sait même pas, il ne le demande même pas. Il est là, c'est comme Daniel, quand on veut l'honorer, il ne demande rien. Lui, ce qu'il demande juste à la limite, c'est « est-ce que je peux vous aider ?» Et dans cette aide apportée au travers de sa personne, complètement dénuée de volonté de recevoir pour lui, il reçoit tout. C'est de ceux qui ont perdu leur vie qu'il la retrouve. L'Église doit être remplie de ces personnes-là. La Bible dit que le grain est fait pour être semé. Si le grain de blé n'est pas jeté en terre et s'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Les sillons ont été ouverts. Maintenant, les sillons qui sont ouverts, qui donnent du grain, doivent être semés. Et j'aimerais aujourd'hui vous lancer ce défi ou cet encouragement de devenir ce grain pour le monde. La terre sur laquelle nous vivons est complètement sèche. La terre sur laquelle nous vivons ne sait même plus c'est quoi le goût d'une vraie humanité. Ne sait même plus c'est quoi réellement aimer. Ne sait même plus c'est quoi réellement pardonner. De tendre une main sans attendre de prendre ce que tu as dans les poches. L'Église d'aujourd'hui, pour une grande partie, a même plus conscience de ce que c'est le service. Tout le monde veut être là, tout le monde veut être Samuel, tout le monde veut être... Samuel, mon ami, il nettoyait le temple au commencement. Les apôtres, ils faisaient à manger à Jésus au commencement. Élisée, il avait les mains d'Élie au commencement. Tous ces grands noms, ils ont commencé dans des services basiques et d'utilité première. D'utilité première. Et aujourd'hui, qui se lève pour ça ? J'aimerais nous encourager à nous lever pour ça. Alors certains me diront, mais c'est facile, toi tu prêches. Déjà, prêcher, c'est pas facile, contrairement à ce que tu penses. Et la deuxième chose, appelle mon pasteur tout de suite. J'ai lavé l'église plus que beaucoup de gens. Elle a fait les enfants plus que beaucoup de gens. On a conduit les gens plus que beaucoup de gens. Et tu sais quoi ? Avec grande joie, je leur offrai. Ça m'enlève en rien la dignité de prédicateur. Au contraire, cette maison doit être propre. Cette maison doit être honorée. Si tu savais le nombre de révélations qu'on a eues dans le ménage, c'est ça qu'on prêche en chair aujourd'hui. Parce qu'on incarne à ce moment-là. Tout de suite, je ne fais que parler. C'est peut-être bien dit, j'espère en tout cas, mais je ne fais que parler. Quand on travaille dans l'Église, on incarne. On se donne là où personne ne nous voit. Quand on intercède pour nos pasteurs, quand on prie pour les membres, quand on fait le café... Quand on s'investit, quand on sort pour l'évangélisation, quand il y a une maraude qu'on va donner à manger, il y n'y a pas de réseaux sociaux, personne ne te voit. Bénis Dieu, parce que lui, il te voit. Et c'est comme ça qu'il t'élève. C'est ça, les fils et les filles de Dieu. Johanna m'a réconcilié avec les réseaux sociaux. Depuis peu, parce que moi, je ne connais pas bien tout ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, à chaque fois qu'on faisait telle personne, elle a tant de vues, ma grande réponse était « Ah ouais, tant de vues ? Vues de qui ? Vues des hommes ou vues de Dieu ?» Vous savez, cette phrase un peu péremptoire d'un campagnard que je suis. Et souvent, je suis allé derrière la caméra, de l'autre côté du Facebook. Ouh là là, ben j'avais vraiment raison, hein, vues de qui, hein. Et après, ben, j'ai rencontré vos pasteurs. Ah, mon grand frère m'avait déjà dit, c'est des bons. Mais c'est vrai, c'est des bons. Il y a des gens qui sont vus de Dieu et vus des hommes, mais ils ne sont pas nombreux. Mes amis, avant d'être vus des hommes, ils ont été vus de Dieu. Amen. Vous aussi, vous devez être vus de lui. Amen. Jésus a été touché par l'offrande d'une petite dame qui donnait 2 sous. Aujourd'hui, on parle d'elle. Jésus a été touché par une autre femme qui a donné son parfum. Aujourd'hui, on parle d'elle. Quand on est vu de Dieu, finalement, on sera vu des hommes. Mais c'est le commencement, être vu de Dieu. J'aimerais vous parler, c'est ce que je fais là, de comment être vu de Dieu, en étant transformé par lui, en se laissant transformer par lui, en se laissant changer par lui, en cherchant à défendre ses intérêts, à défendre sa maison, à dire cet évangile est digne de tout mon service. Cet évangile m'a servi, m'a sauvé. J'aurais pu mourir et être sauvé. J'ai accepté Jésus-Christ. En plus, maintenant, j'ai une femme qui est géniale. Cuisine bien, ça se voit. C'est top. C'est super. C'est nous, les hommes, on ne demande pas grand-chose, en règle générale. Voilà, c'est génial. Elle est gentille. J'ai quelques amis, des fois bancales, des fois ça va. Voilà, puis ils sont gentils, ils sont chrétiens. Si je pars un peu en vrille, ils me pardonnent. Mais c'est beau, c'est une belle vie. Voilà, maintenant, je suis dans ma petite maison, dans ma campagne, je fais mon potager. Loué, gloire à Jésus, tout ça. Voilà, c'est tout ça, je pratique, hein. C'est génial, je lis un peu ma Bible, comme ça ma conscience religieuse est apaisée, j'y comprends rien, mais j'aurais pu être cette personne. Moi j'en croise souvent des comme ça. Ils sont sauvés, c'est pas le problème d'être sauvés. Mais ils n'ont rien changé à la face du monde. Ils n'ont rien changé à la face du monde, parce qu'ils ne se sont jamais laissés semer. C'est à nous d'accepter d'être semés, de dire « Seigneur, merci pour tout, merci pour ce que l'Évangile m'a apporté et continue de m'apporter ». Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on vit même de l'évangile. T'imagines, Lydie ? Mais c'est génial. Spaghetti sponsorisé par Jésus. C'est incroyable, c'est magnifique. Mais vous savez ce que je dis à notre Jésus commun ? Merci pour tout ce que tu as fait et continueras de faire pour moi. Mais s'il te plaît, humblement, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi ? Attention, il veut acheter son salut. Jamais de la vie, c'est gratuit parce qu'un autre a payé. Mais Seigneur, trop de bonté. Trop de bonté. Comment est-ce que je peux la redéverser à d'autres ? Pour ces autres, mais aussi pour toi. Amen. Dieu a un besoin sur cette terre actuelle, les amis. Il a un besoin, il vient dans les cultes, il nous fait du bien, il nous parle. Mais pourquoi ? Pour qu'on puisse sortir et amener ce bien. Amen. Dans cette église, dans peu de temps, vous verrez, quand Dieu va ouvrir la porte, beaucoup de gens vont venir parce qu'ils n'auront plus de pain où ils étaient. Et ils ne pourront pas tous faire la queue pour parler aux 4-5 pasteurs et aux 3 intercesseurs. Ils viendront vers vous. Et là, ce sera votre heure. Qu'est-ce que vous allez leur donner ? Qu'est-ce que vous allez leur donner ? Tu ne pourras pas dire, Tata Joe, qu'est-ce que je réponds à cette question ? Qu'est-ce que vous allez leur donner ? Il est dit qu'un jour Jésus va venir, et c'est quelque chose que je dis souvent en famille. Il faut qu'on fasse attention, on n'arrête pas de dire que Jésus revient, qu'on va le voir tel qu'il est, et c'est vrai, gloire à Jésus. Mais le problème, c'est qu'il dit qu'on va être connu comme on a été connu. Et j'ai dit, mais en fait, de l'autre côté du voile, tout est prêt, Jésus a tout préparé. Mais c'est de mon côté du voile, qu'est-ce que j'ai à présenter à Dieu ? Si Dieu lève le voile sur ma personne, qu'est-ce que j'ai à offrir à l'Église ? Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde ? Vous avez Fabien Mignard, pain en cours de préparation devant vous, mais pain véritable. Si je lève le voile de ta vie, qu'as-tu à offrir pour la cause de notre Dieu ? Qu'as-tu à offrir pour la cause de notre roi et de notre sauveur ? Le défi de l'évangile, c'était de créer un peuple comme celui-ci. D'un monde d'égoïstes, de créer des gens qui se donnent. D'un monde de violence, de créer des gens doux. Des personnes qui savent répondre selon le plan de Dieu. On a vu émerger la lignée de Caïn, mais on attend toujours la lignée de Seth. Il y avait deux lignées dans la Genèse, vous lirez. Une qui construisait des villes ou des méga-church ou autre, une autre qui vivait sous des tentes et qui élevait le nom de l'Éternel. C'est pas dans le sens qu'il faut pas avoir de bâtiment. L'idée de la tente, c'est que c'est quelque chose en mouvement. On doit être dans notre vie, dans une tente permanente, une évolution permanente, un changement permanent. Changer de gloire en gloire, comme il est encore dit. La Bible dira que notre corps est une tente et qu'au ciel, on a un édifice en dur qui nous attend. Mais sur cette terre, on doit évoluer. L'Évangile se propose de nous changer. Est-ce que nous acceptons de l'être ? Je le redis une fois encore, en elle était la vie était la lumière des hommes. Elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu se donne. Un enfant de Dieu se laisse transformer. Et au moment où il est prêt, parce que Jésus au commencement, il n'était pas prêt à être donné. Hein. Il est déjà né dans le monde, c'était pas mal. Il a grandi dans le monde, en stature, vous lirez dans Luc chapitre 1 et 2, en sagesse, etc. Ensuite, il a prêché la parole, il a suivi ce processus. Il dit juste qu'un enfant de Dieu, quand il devient fils et qu'il est parfait, il se donne lui-même. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous dis pas d'aller vous jeter au fin fond d'un pays hostile et de risquer votre vie bêtement. Vous savez, c'est quoi la plus belle mort qui soit pour un chrétien ? Vivre tous les jours. Quand on sait ce qui nous attend de l'autre côté, mourir finalement, j'ai découvert ça avec les années, hein, ben mourir, ce n'est pas la pire chose qui peut nous arriver, ou la plus dure du moins. Mais vivre comme un sacrifice vivant, ce qui est pour Dieu un sacrifice à l'odeur agréable et convenable. Ça, c'est des fils et des filles de Dieu. Et ils diffusent une bonne odeur de vie là où ils passent. Et de mort là où la mort doit frapper. C'est ça que Dieu veut faire de vous. Cette grâce, elle est au-dessus de vous. Elle est parmi vous. Et j'aimerais encourager toutes celles et ceux qui l'ont fait à vous dire vous avez bien fait. Et celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à entrer dans ce processus. Recevez la parole, recevez l'onction, mais maintenant devenez la parole. Et j'ose le dire, devenez l'onction. Et le monde pourra trembler et dire les dieux sont vraiment descendus parmi nous pour honorer celui qui est le vrai Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie. Si vous le voulez bien, on va se lever, on va prier en ce sens. Et je nous encourage à renouveler notre engagement auprès du Seigneur. Lui dire, nous voici. Tu nous as bien nourris, tu nous as bien remplis. Le grain est serré ici. Il va même avoir plus grand. Mais on se prépare maintenant à être déversé. Alléluia. Vous êtes plus que des grains, vous êtes une semence. C'est en vous semant que vous découvrirez votre plein potentiel. Vous allez découvrir qu'il y avait en vous quelque chose de plus que ce que vous êtes devenu. Et vous allez être heureux de ça. C'est la merveille de l'Évangile. Père Saint, merci pour ta puissance, mais plus encore, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta vérité, parce que tu as dit que nous connaîtrions la vérité, qu'elle nous rendrait libres, libres de te servir, libres de se donner, libres de refuser aussi. Libre, tout simplement. Père Saint, merci pour celles et ceux qui s'avancent pour aller plus loin. Merci pour celles et ceux qui ont compris que être devant toi, c'était une bonne chose. Te servir, c'était encore meilleur. Je te prie, Père éternel, pour cette assemblée, humblement, Seigneur, parce que tu as pourvu à tous égards, je te demande que des grâces supérieures leur soient accordées. Je te demande, Seigneur, que se lèvent parmi eux des personnes avec un cœur de serviteur plus grand encore. Je te demande, Seigneur, de susciter des vocations qui te servent véritablement, des véritables disciples, des gens qui ont compris que la joie, c'était de se donner. Je te demande de les bénir, Père éternel, de poser ta main dans leur sujet personnel où ils ont besoin aussi de recevoir leur part pour pouvoir se donner. Tu donnes un sacrifice parfait, sans défaut. Alors avant tout, tu veux perfectionner ce sacrifice. Bénis-les dans leur famille, dans leur vie, dans leurs besoins personnels. Mais aussi donne-leur un cœur qui cherche à dire, Seigneur, après cela, moi aussi je veux me donner à toi. Parce qu'il y a une plaie dans le cœur de Dieu qui doit être guérie par l'homme, comme il y avait une plaie dans le cœur de l'homme qui a été guérie par Dieu. La réponse est maintenant devant nous. Seigneur, nous nous engageons, pour ma part je m'engage et me réengage jusqu'à la boue, jusqu'au bout et même jusqu'à la boue justement, Seigneur, pour te servir. t'honorer parce que Seigneur Jésus-Christ, tu es digne et tu nous as remontré ce qu'était le Père, mais aussi ce qu'était être fils. Nous nous donnons pour le Père et pour ce que le Père veut atteindre. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, fais de nous une offrande vivante. Fais de nous ce peuple qui sacrifie, ce peuple qui se donne et qui ressuscite chaque jour pour démontrer ta grandeur. Béni soit la CBM, les collaborateurs présents, les responsables, les intercesseurs, les membres et les fidèles, ceux qui sont rattachés au loin, ramène-les maintenant, Seigneur. Et que de cette multitude en est une autre, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen.